J'aimerais parler ce matin encore sur la guérison divine. Nous allons parler particulièrement des blessures du cœur et comment est-ce que le Seigneur peut guérir les cœurs brisés, les cœurs blessés. Au psaume 147 et au verset 3, il est écrit « C'est Dieu, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Amen. Notre cœur est fragile. Notre cœur est un petit peu comparable à un vase de porcelaine. Il est beau, il est solide. Mais si on met un coup de coude, il tombe par terre et il se casse en mille morceaux. Le cœur est donc chargé de blessures. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à des dénigrements. On s'est moqué peut-être de vous, on vous a méprisé, ou vous n'avez pas reçu l'amour de vos parents. Il y a eu toutes sortes de blessures qui se sont greffées, blessure sur blessure. On a été malmené, chahuté, ballotté de côté et d'autre. Et lorsque le cœur est brisé, qui peut le réparer? Nous savons que la médecine n'a pas de médicaments pour restaurer un cœur brisé. Il n'y a pas de solution terrestre en tout cas. Mais nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, notre Dieu, qui lui connaît le moyen de guérir nos cœurs brisés et de nous donner un nouveau départ. Peut-être notre cœur a été piétiné, on a été humilié, rabaissé plus bas que terre, on s'est moqué de nous. Tout cela a généré des souffrances, des rejets, des sentiments d'abandon, de rejet. Et tout cela, eh bien, nous pouvons les déposer au Seigneur. Alors, c'est vrai, on le dit souvent, c'est que Dieu, c'est le meilleur des psychologues parce qu'il connaît entièrement l'âme humaine. Il connaît comment soigner, réparer les blessures de la vie. Et pour exemple, j'ai pensé à un personnage de l'Ancien Testament qui s'appelle David, dans 1 Samuel 16. J'aimerais vous montrer en quelques points de sa vie combien son cœur a été meurtri, blessé à de nombreuses reprises, et comment le Seigneur l'a restauré, et ce qu'il peut faire pour nous aussi quand nous passons par ces situations. 1 Samuel, chapitre 16, et le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Alors le premier point ici, c'est un manque de considération paternelle. Samuel, le prophète de Dieu, a été envoyé pour choisir le successeur du roi Saül. Saül qui n'est plus agréé de Dieu, qui est un roi déchu. Et je remarque, si vous lisez tout le chapitre 16, peut-être les premiers versets, je remarque que, en tout cas, Dieu va donner des directives assez précises à son serviteur Samuel, afin qu'il choisisse la bonne personne. Il va lui dire d'abord, tu vas te rendre dans la ville de Bethléem. Et dans cette ville de Bethléem, tu vas trouver un homme qui s'appelle Isaïe. Et Dieu lui dit, c'est dans la maison d'Isaïe que sera le successeur de Saül. Donc, on peut dire que Samuel a tous les éléments pour pouvoir choisir la bonne personne. Dans la famille d'Isaïe. Et on a lu à la fin du verset 7, plutôt verset 5, la fin du verset 5, il fit sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Qui est-ce qui est invité au sacrifice, c'est-à-dire pour faire le choix du futur roi? Ce sont tous les fils d'Isaïe. Tous les fils d'Isaïe sont invités. C'est-à-dire 8 fils. Nous savons qu'Ésaïe avait 8 fils. Et pourtant, Ésaïe n'a obéi qu'à une partie de la parole, puisqu'il n'en a présenté que 7 devant Samuel. Pourquoi il en a présenté 7? Il a considéré que David n'était pas concerné par ce choix ou par la décision que Dieu allait prendre et que ce n'était pas nécessaire qu'il soit présent. Vous voyez, quand on obéit à la parole de Dieu partiellement, on peut dire qu'il a obéi à 90%, mais il y avait un pourcentage. Il a dit, c'est pas possible de toute façon que ça concerne Samuel. Alors déjà, ça concerne David. David a été mis de côté, il a été méprisé, on n'a pas considéré son potentiel, il n'était pas capable d'être roi, en tout cas selon Isaïe, son père. Mais je remarque ceci, c'est que même si les gens nous mettent de côté, peut-être les gens vont dire « vous n'êtes pas capable » ou « ce n'est pas pour vous », en tout cas, si Dieu a décidé que ce sera vous, d'une manière ou d'une autre, ça va revenir du bon côté. C'est ce qui va se passer pour David. Parce que David ne maîtrise pas la situation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas s'imposer, il ne peut pas forcer les choses, il est contraint de se soumettre aux directives de son père. Eh bien, il va le faire. Et peut-être, il pouvait se dire, ben voilà, je vais manquer encore une occasion, je ne vais pas être présent, je vais passer à côté peut-être d'une bénédiction, peut-être c'était moi. Et tout cela, il a abandonné la situation à Dieu. Frères et sœurs, c'est un modèle pour nous que nous croyons que Dieu dirige les temps et les circonstances. Et si la porte n'est pas ouverte à ce moment-là, nous croyons que Dieu est puissant pour ouvrir une autre porte à un autre moment pour nous amener dans la bonne direction. David se confie entièrement en Dieu. Même si les gens vous oublient quelque part, ils vont vous mépriser, vous mettre de côté. En tout cas, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Au psaume 56, verset 12, il est écrit « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Que peuvent me faire des hommes ? Qu'est-ce que pouvait faire Isaïe ? Est-ce que Isaïe avait la puissance, avait le pouvoir de s'opposer au plan de Dieu ? Non. Il a fait son erreur, il a méprisé celui qui allait être loin de l'Éternel. Eh bien, ça n'a pas empêché Dieu, en tout cas, de ramener David dans la voie qu'il avait tracée pour lui. Alors voilà un premier point. David n'a pas ici été considéré. Il a ressenti qu'on l'avait mis de côté, qu'on ne s'intéressait pas à sa situation. Il n'était pas considéré des hommes. Mais en réalité, ce qui compte pour nous, frères et sœurs, est-ce que c'est la considération des hommes ou est-ce que c'est la considération de notre Dieu ? C'est ça que nous cherchons. Nous cherchons à lui plaire. Nous cherchons à l'honorer. Et David, dans le secret, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, lui, on lui avait confié ce troupeau, mais lui, il veillait sur chacune de ses brebis parce qu'il avait ce travail consciencieux, cet amour du travail bien fait. Et lorsqu'un loup ou un lion venait pour arracher une de ses brebis, bien, il était là avec sa fronde, il s'entraînait. Et puis Dieu a vu son cœur, Dieu a vu ce jeune homme entier pour le Seigneur, et il a dit « ça sera lui ». Qui sera le futur roi. Personne ne l'avait vu, les parents ne l'avaient pas vu, ses frères ne l'avaient pas vu, mais en tout cas, les yeux du Seigneur étaient sur lui et Dieu l'a béni. Au psaume 27, il écrit « Mon père et ma mère m'abandonnent ». C'est David qui écrit cela. « Mon père et ma mère m'abandonnent ». Il a ressenti peut-être cet abandon, ce rejet, cette mise à l'écart, en tout cas, mais il dit « Mais l'Éternel me recueillera ». Béni soit le nom de l'Éternel qui, lui, ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas mis de côté et il a restauré le cœur peut-être déjà blessé par cet abandon, cette mise à l'écart de ses parents. Un peu plus loin, au chapitre 17, deuxième épreuve, on peut lire le verset 28, 1 Samuel 17, 28. Éliab, maintenant c'est son frère. Son frère qui va avoir une parole de rejet, une parole négative. Éliab, son frère aîné, qui avait entendu parler ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit « Mais pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Et là, maintenant, ce sont les frères. Les frères de David ont vu que c'est David qui a été oint comme roi. Et au lieu de se réjouir, ils en ont éprouvé une grande jalousie. Ils n'ont pas compris, mais comment se fait-il que David, le plus jeune, a été choisi alors que nous avions l'expérience, nous avions les années d'expérience, nous avions l'âge nécessaire. Et il est dit qu'Éliab même, il avait la stature pour être roi, c'était le fils aîné. Et je remarque ceci, c'est que Dieu donne à l'un ou Dieu donne à l'autre, mais il ne donne pas de la même manière. Quand on lit la parabole des talents, on voit que Dieu a donné 5 talents à l'un, 3 talents à un autre, 1 talent au troisième. Mais il n'a pas donné 5 talents à tous. Il a donné à l'un, à l'autre, selon les capacités, selon les dons, les moyens qu'ils avaient de faire prospérer ces talents. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez reçu 5 talents ou 1 talent. Ce n'est pas tellement l'importance, mais c'est que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions fructifier ne serait-ce qu'un talent. Un talent que Dieu nous a donné, que nous le fassions fructifier, que nous le mettions au service de Dieu. Éliab, lui, son nom signifie « Dieu est un père ». Et pourtant, il n'a pas eu la compassion pour son frère. Je remarque que son cœur est rempli de colère. Il dit « Mais toi, tu as quitté ton petit troupeau ». Il méprise son frère. Et il n'a pas de considération. Il voit en David de l'orgueil, il voit en David de la méchanceté. Mais en réalité, c'est bien dans le cœur d'Éliab que nous voyons de l'orgueil et que nous voyons de la méchanceté. Et quand notre cœur est rempli d'orgueil et de méchanceté, qu'est-ce qui se passe? On le voit chez les autres. Et on devient aveugle soi-même sur notre propre condition. Alors, il va mal juger. Pourquoi? Parce qu'il est charnel. Et vous voyez pourquoi Dieu n'a pas choisi Éliab finalement? Ça se révèle ici. C'est que le cœur d'Éliab est orgueilleux, il se croit au-dessus de son frère, il se croit plus fort, il se croit lui capable, et il méprise son frère, mais Dieu, il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Ne voyez pas ça chez David, ne voyez pas une attitude orgueilleuse. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment David réagit aux paroles méchantes de son frère. Comment est-ce qu'on réagit quand on dit du mal comme ça? Ce n'est pas facile de bien réagir. Eh bien, il va se détourner d'Éliab pour aller voir d'autres personnes. C'est-à-dire, il ne va pas alimenter la polémique en rajoutant, peut-être en entrant en conflit, en entrant dans une mauvaise attitude, mais il a laissé son frère, bon, avec ses mauvaises pensées, avec sa manière de faire, et il est allé plus loin. C'est-à-dire, il n'alimente pas le feu. Il y a un proverbe qui dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Mais quand on est là pour entretenir, pour alimenter les polémiques, un peu comme Éliab, ses frères qui ressassaient toujours les mêmes problèmes, et la jalousie, et pourquoi lui et pas moi, etc., eh bien ça ne fait que attrister le cœur de Dieu, ça nous rend malheureux, ça les rend certainement blessés, et c'est pour ça que quand ils voient David, ils voient de l'orgueil, ils voient de la méchanceté, mais en fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est dans leur cœur que sont toutes ces choses. Alors, on peut dire que David encore est blessé, non seulement par son père, maintenant c'est par ses frères, mais je remarque chez lui qu'il ne laisse pas l'amertume envahir son âme et qu'il reste dans la paix de Dieu. Donc Dieu veille sur le cœur de David. Un petit peu plus loin au chapitre 18, à nouveau, une occasion d'avoir un cœur blessé, brisé, et là c'est avec Saül, 1 Samuel 18, verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël devant le roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut et il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000 et il lui manque plus que la royauté ». Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Saül, qui signifie « demander à Dieu », est un roi désobéissant. Donc Saül signifie « demander à Dieu ». On voit que c'est un roi désobéissant qui est sur le déclin. Et au début, ben, il appréciait David pour ses qualités. Parce que David était un homme courageux. David est allé seul au-devant du géant Goliath. Goliath, on sait qu'il faisait quand même 3 mètres de haut.
était fort, il était vaillant. Personne n'osait le rencontrer. David avait donc avec lui la foi nécessaire pour terrasser le géant. David a fait des expériences extraordinaires. Mais plus David avait du succès, plus le roi voyait d'un mauvais œil David qui disait, mais peut-être, Saül disait, il va prendre la royauté. Il devient jaloux. Il devient, à l'égard de David, mal disposé. D'abord, la Bible dit que son regard a changé. Avant, il le voyait comme un espoir, comme quelqu'un qui allait peut-être amener le peuple de Dieu plus loin. Et puis maintenant, il est jaloux. Et il se dit, ça peut être un ennemi, ça peut être pour moi un danger. Il va peut-être me prendre ma place. Et pourtant, Saül a bénéficié de la présence de David. David, c'est un bon élément. Et quand il jouait de la harpe, la Bible dit que le mauvais esprit qui était sur Saül se retirait de lui. Il avait de l'apaisement dans la présence de David. Pourquoi ? Parce que l'onction du Seigneur Dieu était sur David. Et puis, petit à petit, Saül était de plus en plus amer. Et puis, il vient un moment où le roi David, le roi plutôt Saül, a voulu proposer à David d'épouser sa propre fille. Et c'était encore quelque chose pour le piéger. Au dernier moment, la Bible dit que Saül a donné sa fille en mariage à un autre. Et imaginez les préparatifs du mariage, on vous dit c'est votre épouse, et puis lui, David se sentait honoré, je vais devenir gendre du roi, et puis au dernier moment, on lui fait non, c'est pas toi. Et elle est mariée à un autre. Quelle humiliation! Combien son cœur a été encore blessé. Et encore par la suite, Saül continue à lui faire du mal. Et il lui propose sa deuxième fille qui s'appelle Michal. Et pour le piéger, il lui dit, je te l'offre contre 100 prépuces de Philistins. Mais c'était pour qu'il meure dans les combats. Et David revient victorieux avec 200 prépuces. Et finalement, c'est un mariage d'amour parce que la Bible dit que Michal aimait David. Il y a un mariage d'amour, on pourrait dire que la situation va s'améliorer pour David, que son cœur va être fortifié, mais la haine du beau-père ne diminue pas, il veut le tuer, il devient méchant, violent, il veut même jeter sa lance contre lui, et à ce moment-là, David doit fuir. Et ce qui s'est passé pendant que David a fui, eh bien Saül a pris Michal et il l'a donné à un autre, c'est dans 1 Samuel chapitre 25, c'est encore un peu plus loin. Et au verset 44, on voit la folie de ce roi et combien le cœur de David va être encore blessé, meurtri. Alors c'est vrai que malgré la haine du roi, malgré la méchanceté de ce roi, on voit que David a gardé dans son cœur, lui, le respect, il avait le pardon. Il y a un proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On voit que David gardait son cœur et il apprend cette nouvelle au verset 44. « Saül avait donné sa fille Michal, elle était pourtant mariée à David, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. » C'est encore une nouvelle épreuve. Vous voyez que David, en fait, a connu épreuve sur épreuve, douleur sur douleur. David a dû fuir, il a dû se cacher dans les rochers pour sauver sa vie de Saül et son armée qui le pourchassaient. Et pour humilier David, il a donné sa femme à un autre. Aucun respect pour David, aucun respect pour sa propre fille, parce qu'aucun père ne ferait des choses pareilles. Mais Saül était animé d'une folie. Mais David a respecté Saül jusqu'au bout parce que c'était loin de l'Éternel. Pourtant, il souffrait, il ne pouvait rien faire. On pourrait dire qu'il était victime d'un roi fou qui cherchait à le tuer. Mais quelquefois, nous sommes victimes de gens qui sont fous, qui sont insensés, qui n'ont aucune mesure, qui sont méchants, qui veulent nous faire du mal. On peut dire que ce n'est pas la faute de David, mais il subit des souffrances, il subit des coups dans son cœur. Alors, on ne doit pas se culpabiliser parce que ce n'est pas de notre faute. Et David ne se culpabilise pas dans cette situation. Mais il remet encore ce problème à Dieu en disant, bien, je suis innocent, je n'ai rien fait pour mériter cette situation, mais voilà, il en veut à ma vie, il veut me détruire. Et là encore, il remet à Dieu son cœur et Dieu va guérir son cœur, blessé, brisé. C'est vrai que la situation de son couple va être difficile puisque maintenant, sa femme est mariée avec un autre. Alors par la suite, il va réussir à récupérer Mical, mais les relations vont être conflictuelles. Alors on peut réussir dans la vie, on peut réussir beaucoup de choses, et béni soit Dieu pour cela. Mais si dans le couple, il n'y a pas cette unité, s'il y a cette déchirure, comme ça a été le cas pour David, il a beaucoup souffert dans son couple. Et non seulement cela, mais il s'est remarié avec d'autres femmes. Et il a eu d'autres problèmes encore. Une vie de couple extrêmement difficile, malheureuse. Ben, quand on n'est pas épanoui dans son couple, alors on est malheureux. On peut avoir du succès, on peut avoir des bénédictions en tout genre. Ben, si on ne réussit pas à développer cet amour familial, ça crée une souffrance et notre cœur est brisé. Et David avait besoin d'être réconforté dans son cœur brisé. C'est vrai que David a subi les insultes, les affronts, l'ignominie, mais il a tenu ferme, un petit peu comme Jésus a subi aussi les moqueries, on l'a dénigré, on a dit c'est un mangeur, un buveur, ou alors s'il chasse les démons, c'est par Belzébul, le prince des démons, on le dénigrait. Mais il est resté plein d'amour pour ces gens-là, ça veut dire que notre cœur doit être gardé de la haine, de l'amertume. Un petit peu plus loin, dans 2 Samuel, les mauvaises nouvelles vont s'abattre sur David encore, son meilleur ami qui s'appelle Jonathan, va mourir dans un combat. 2 Samuel chapitre 1 et au verset 25. Et quand il apprend la nouvelle de la mort de son ami Jonathan ainsi que son père, donc Saül, il va composer un cantique. Je lis un extrait, verset 25. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Il parle de Saül, il parle de Jonathan. Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? C'est tout cela par la cause du roi Saül qui, dans sa folie, a livré un combat. Et comme il ne savait pas si Dieu était avec lui, il est allé consulter une voyante à Endor et c'est là que ça a mal tourné. Et que finalement, il a désobéi à Dieu. C'est certain que si on va consulter des voyants, si on va chercher ailleurs qu'en Dieu la solution, on ne peut pas réussir. Et ça a été catastrophique. Son fils Jonathan a soutenu son père jusqu'au bout. Ils sont allés au combat, ils savaient que ça allait mal tourner et ils sont morts, tous les deux, dans le combat. C'est la faute de Saül. Et ici, David exprime encore une souffrance. Pourquoi Jonathan ? Jonathan qui était si jeune. Jonathan qui était, peut-être, il était prévu pour lui un avenir brillant, avec des situations. Eh bien, il est mort dans la jeunesse. Sa mort a brisé le cœur de David. Et là, ça va être difficile à surmonter parce que, bien, il y avait cette amitié, il y avait cet amour mutuel. Et tout a été cassé. Et là, on voit que Dieu va réconforter encore une fois le cœur de David. Et nous savons, en tout cas, quand nous perdons un être proche, comme ça nous arrive, bien, nous savons qu'un jour, il faut partir dans l'éternité. Mais en tout cas, Dieu met dans notre cœur la consolation de savoir qu'un jour, nous reverrons tous ceux qui nous ont précédés parce qu'ils sont déjà dans le paradis de Dieu, ils sont déjà auprès du Seigneur. Mais son cœur, à nouveau, est blessé. Et puis un peu plus loin, au chapitre 3, c'est maintenant son chef des armées qui s'appelle Moab qui va le trahir. Ça aussi, c'est une blessure dans son cœur. 2 Samuel 3 et le verset 22, Joab qui est un homme violent, c'est un homme rempli d'un esprit de vengeance et il va faire quelque chose que David désapprouve. Dans 2 Samuel 3, 22, voici Joab, les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. On sait que Joab avait de mauvais sentiments vis-à-vis de ce Abner, parce que Abner avait tué un frère de Joab et il s'était dit un jour je le tuerai. Vous voyez, il était animé de sentiments de méchanceté. Mais David voulait faire la paix avec tout ça. Il voulait que ces combats s'arrêtent et il voulait que Abner soit en paix. Mais alors que Abner est parti, bien David va plutôt, sans que David le sache, Joab va suivre Abner et va le tuer. Et on voit que quand dans notre cœur, il y a de la méchanceté, de la rancœur, il y a de l'animosité, et bien tôt ou tard, ça fait du mal, ça fait des dégâts. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire. David a été donc trahi par un de ses collaborateurs, enfin plutôt un de ses responsables, qui était le chef des armées. Et cet homme a pris cette initiative sans demander l'avis à David, et il a fait du mal. Et c'est pour ça que David a dit bien, que le sang d'Abner retombe sur Joab. Et Joab est mort dans la violence à cause de ses nombreux péchés. David a beaucoup souffert de ses relations avec Joab. Et comment réagissons-nous aussi, nous, quand nous sommes trahis par une personne de confiance, par un ami, par quelqu'un de proche? Bien, cela va nous attrister profondément, cela va nous démoraliser, cela va nous affecter. Mais en tout cas, veillons à ne pas laisser dans notre cœur un esprit de vengeance, un esprit d'animosité, d'amertume pour vouloir régler nos comptes. David a continué à avoir son cœur meurtri à de nombreuses reprises. Je pense à son péché avec Bathsheba, qui est vraiment un point noir dans la vie de David, qui n'était pas invulnérable. C'était un homme de la même nature que nous, avec ses faiblesses. Et il a vu cette femme, Bathsheba. Il en est tombé amoureux, mais cette femme était mariée. Il n'a pas voulu écouter les conseils. On lui a dit, mais cette femme est mariée. Et il a quand même couché avec elle. Il a fait l'adultère. Il a bien caché son péché, il a même fait tuer le mari de cette femme, etc. C'était donc grave. Mais Nathan, le prophète, a dévoilé son péché. Et à ce moment-là, il est dit que David a écrit un psaume, le psaume 51. Et dans le psaume 51, David parle de son cœur. Et il va, c'est au psaume 51, verset 16. Il va exprimer à Dieu, un psaume de repentance en demandant pardon pour tous ses péchés. Par exemple, psaume 51,16, il dit « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Il a versé du sang. Il a tué un innocent, c'était le mari de Bathsheba. « Ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma langue publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà comment est son cœur, parce qu'il a péché, parce qu'il a fait des choses que Dieu désapprouve, alors son cœur est brisé, son cœur est contrit au-dedans de lui-même, et il demande pardon à Dieu. Et si nous demandons pardon de tout notre cœur quand nous avons péché, eh bien, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous donner un nouveau départ. Le psaume 51, c'est un psaume d'un nouveau départ. C'est le psaume où on réalise notre péché, on a blessé le cœur de Dieu, notre cœur est meurtri, mais en même temps, on reçoit la guérison, le pardon, pour pouvoir à nouveau reprendre la route. C'est ce qui va se passer pour David. Dans le psaume 51, il réalise son péché et il demande pardon à Dieu. Et puis, je termine avec un dernier exemple qui est peut-être le plus difficile pour David. C'est son propre fils, Absalom, qui va se retourner contre lui. C'est dans 2 Samuel chapitre 15 et au verset 13. 2 Samuel 15, 13, un extrait encore de la vie de David où nous voyons au verset 13, quelqu'un va informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » C'est son propre fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien, la famille de David a été un désastre. Si on regarde ses enfants, j'ai parlé de son épouse, mais il en a eu d'autres. Une de ses filles, Tamar, a été violée par un autre de ses fils, Amnon. Absalom a tué Amnon, donc son frère, pour venger sa sœur. Enfin, c'est des histoires de violence, de terrible dans la famille de David qui a été vraiment un échec. Et Absalom a dû fuir le pays parce qu'il avait tué quand même un des fils du roi. Il a dû fuir le pays et au bout d'un moment, il est revenu. Et la Bible dit qu'il était de plus en plus apprécié quand il revenait à Jérusalem. Les gens venaient voir Absalom et il commençait à avoir de plus en plus de succès. Et petit à petit, il lui est venu l'idée qu'il allait remplacer le roi David. Et il a réussi, en fait, à gagner le cœur du peuple et à faire sortir son propre père. C'est donc pour David vraiment une souffrance, un échec énorme dans sa propre famille de voir son fils le chasser d'une manière aussi lamentable. Je passe les détails sur tout ce qu'Absalom a fait, mais c'est grave. Et on voit que certaines familles sont déchirées, divisées par un manque d'amour, un manque de soutien. Il y a des parties et puis ça crée des divisions, des tensions et ça casse et ça brise les familles. Eh bien, pour les parents, c'est un cœur déchiré, c'est un cœur brisé. Et pourtant, je remarque que dans le cœur de David, il n'y a pas de haine pour son propre fils. Parce que quand il dit à Joab, il s'exprime de l'épargner. Dans 2 Samuel 18, verset 5, il dit à Joab, Aïcha et Hatti, qui étaient les responsables militaires, « Pour l'amour de moi, doucement, avec le jeune Absalom, épargnez mon fils. » Et pourtant, son fils, c'est lui qui l'a fait partir. Tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Et puis, on a parlé de Joab qui n'écoute rien, il n'en a fait qu'à sa tête et il a tué Absalom pour se venger de ce qu'il avait fait. On voit que le cœur de Joab, c'est un cœur rempli de haine et de vengeance, que le cœur de David exprime la grâce de Dieu parce que Dieu veut faire grâce, Dieu veut donner un nouveau départ et Dieu voulait peut-être que cet Absalom, bien, il change d'attitude et qu'il revienne dans les voies de Dieu. Mais qui pourra consoler le cœur de David? Regardez, quand il apprend la mort de son fils Absalom, eh bien, il pleure et il regrette cette disparition parce qu'il aimait profondément son fils malgré tout le mal qu'il lui avait fait. J'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer combien dans la vie, évidemment ça s'est passé sur des années, à plusieurs reprises, notre cœur peut être piétiné, malmené, blessé. Et à chaque fois, on voit que David a été consolé, relevé, restauré par la grâce de Dieu. On peut dire que Dieu a pansé chacune de ses blessures. Je ne sais pas comment est votre cœur ce matin, mais peut-être vous avez aussi une blessure ou des blessures qui n'ont pas été pensées. Et nous savons que humainement, il n'y a pas de solution. Mais par contre, si nous venons apporter notre cœur au Seigneur pour qu'il y mette sa paix, pour qu'il y mette son huile par le Saint-Esprit, pour qu'il nous console, qu'il réconforte, alors nous croyons qu'il peut nous donner un nouveau départ et qu'il peut nous faire grâce. On va prier quelques instants et on va déposer nos cœurs au Seigneur en lui faisant confiance. Il n'y a pas de blessure trop difficile pour notre Dieu. Il n'y a pas de situation impossible. Et peut-être vous pensez, oui, mais moi, c'est trop profond. Non, on peut abandonner cette blessure, cette souffrance au Seigneur. Et nous prions le Dieu de toute consolation qui est capable de restaurer les cœurs brisés, donner un nouveau départ et nous donner sa paix et sa grâce. Merci encore pour ta parole. Nous voyons combien tu es plein d'amour, combien tu es compatissant, combien tu as un plan merveilleux pour nos vies, combien tu veux que nous ayons des cœurs restaurés, Seigneur, par ta grâce. Je te prie pour celui ou celle ce matin qui a besoin d'être guéri dans son cœur, qui a besoin peut-être d'être restauré d'une blessure qui est là depuis des années. Et nous voulons, Seigneur, abandonner tout cela entre tes mains et te dire, viens, Seigneur, dans nos cœurs, viens mettre ton baume, ton réconfort. Tu l'as fait pour David, tu l'as fait pour d'autres, tu l'as fait pour nous. Et nous croyons que tu veux le faire pour celui ou celle qui s'attend à toi, parce que tu es un Dieu de consolation, un Dieu de paix, un Dieu de grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui restaure, qui donne cette paix, qui remplit notre cœur d'amour au lieu de la haine, de la jalousie, au lieu de l'amertume. Seigneur, tu remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix, mais nous voulons sortir et déposer tout fardeau au pied de la croix et dire, oui Seigneur, toi tu tu prends soin de chacun de nous. Amen. Amen.